mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. »
Suite de la première partie. La nourrice de Thérèse cachait parfois quelques pièces d'un sou ou deux qui s'entrechoquaient en roulant dans le tiroir. Le bruit particulier du métal trahissait cette cachette aux oreilles de Thérèse. À pas feutrés, jusqu'aux meubles en bois qu'elle ouvrait en silence, elle subtilisait de quoi acheter de la réglisse. Puis elle refermait le tiroir sans bruit. En classe, elle offrait la friandise à qui voulait bien lire pour elle ce qui était écrit au tableau. Elle n'avait pas d'amis. Les enfants sont cruels, sans complaisance pour qui diffère de leur univers. Ils n'éprouvaient aucune empathie pour cet aveugle venant de la DAS. Sa nourrice prit enfin conscience du problème de vue qui empêchait Thérèse de lire, ce qu'elle signale à l'assistance publique, qui les envoie chez son occultiste attitré. Toute joyeuse, Thérèse imagine les conditions de sa prochaine rentrée des classes. Elle pourra voir le tableau, ouvrir ses livres de classe, lire et apprendre. Elle en avait soif. Sa nourrice l'accompagne dans la boutique du professionnel. Blouse blanche, un binocle à garniture d'écailles sur le nez, il la fait asseoir devant lui. À l'examen des yeux, le professionnel s'agace. Aucun des verres qu'il propose à cet enfant ne semble lui convenir. Serait-elle capricieuse, voire insolente? Il recule sa chaise, gonfle un peu le torse en prenant une stature professionnelle, hautaine, suffisante. En même temps qu'il regarde Thérèse de toute la hauteur de son incontestable science, espérant l'intimider. Après un court silence, il lui colle une paire de lunettes sur le nez, en affirmant qu'elle ne pouvait trouver mieux. La petite fille, lassée, accepta sans broncher. Elle se sentait emportée dans la ronde d'images d'un manège effrayant. Le tableau noir, des livres fermés, les élèves qui se moquent, farandole étourdissante. Un sentiment corrosif la rongeait. Il faudra de nouveau prendre des sous dans le tiroir. Pas grand-chose, mais quand même, quelques bricoles, ça s'appelle aussi du vol. Cette paire de lunettes, comme une bille dans un flipper, l'envoyait se cogner d'une réalité à l'autre, aussi brutale, aussi froide qu'implacable, de la cécité à l'impossible guérison. Durant la guerre, Thérèse échangeait avec des réfugiés sa part de beurre contre leur saindoux qu'elle préférait. Certes, le pain manquait de saveur et le café, comme le sucre, s'obtenait au compte-gouttes, mais elle ne manqua pas de nourriture. La capitulation sans condition signée par l'armée allemande entre le 6 et le 7 mai 1945 mit fin au cauchemar. 3 ans après, sous le portrait de Théodore Herzl, le père du sionisme, David Ben-Gourion déclare l'indépendance de l'État d'Israël. La grande histoire suivait son cours. Quant à Thérèse, enfant de la DAS, son parcours dans les années de guerre et d'après-guerre découlait d'une loi sur les enfants assistés datant du 27 juin 1904. Une loi de police et de sûreté avant de constituer un cadre de protection et d'aide. Bien que modernisée en avril 43, cette loi donnait un caractère obligatoire aux méthodes éprouvées pendant tout le XIXe siècle. On peut lire Amédée Thévenet, L'aide sociale aujourd'hui, ESF 2004, page 171. En 1945, l'assistance publique, forte de ses méthodes éprouvées durant tout le XIXe siècle, mettait au travail, dès l'âge de 14 ans, les enfants à sa charge. Des hordes d'orphelins rejoindront des fermes qui les emploient dans des conditions souvent difficiles. On dénombre 350 000 pupilles de la nation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 350 000 enfants qui exerceront un métier qu'ils n'ont pas choisi. Les médecins de l'assistance publique envoient Thérèse dans un préventorium à Pau. Un préventorium est un établissement destiné à prévenir la population d'une contagion des maladies infectieuses. Thérèse ne guérit pas d'une bronchite tenace qu'aucune thérapie ne soigne. Aveugle, elle ne peut participer aux sorties en montagne organisées pour les enfants hospitalisés. Elle passe de longs mois derrière les murs du préventorium,
sans que personne ne lui rende visite. Sa bronchite mal soignée repousse jusqu'à ses 17 ans cette fatidique entrée dans la vie active. Synonyme d'une nouvelle rupture, l'âge de travailler oblige ses enfants à quitter leur famille d'accueil pour rejoindre un foyer des pupilles de la nation. Le dortoir du foyer, plongé dans le noir, bruissait du chuchotement des filles qui se parlent d'un lit à l'autre. Thérèse, blottie dans les draps qu'elle remonte jusqu'aux épaules, se repasse le film de ces dernières années. Les yeux fermés sur un oreiller que le sommeil déserte, elle repense à sa sœur, sa nourrice, l'école. Quelques rires étouffés et des bribes de phrases lui parviennent, qui la rendent jalouse. Elle rêve d'une compagne à qui parler tout bas, de tout ou de rien. Comme le font ses filles du bout du dortoir. Une amie à qui se confier, oui, mais aucune d'elles ne voulait d'une aveugle pour amie. Sur l'oreiller défilent des souvenirs, adversaires d'une enfance innocente. Mis à part ce lointain matin d'automne et cette caresse sur sa joue, un goût acide marque sa mémoire. Son passé en lambeaux, comme un oripeau déchiré, lui apprenait que la vie se porte brisée. Thérèse, comme toutes les autres filles, se rendait seule chez son employeur. Aucune considération particulière ne lui était accordée. Elle avait aiguisé ses facultés au point de rendre son déficit imperceptible. Pour apprendre le trajet sans le voir, elle se fiait au sens valide, jusqu'à reconnaître le son propre à chaque trottoir, l'odeur des avenues, l'irrégularité de telle façade, le bois des volets, jusqu'à ce que ses pas, devenus mécaniques, parviennent au réflexe. Dans la maison de son premier employeur, Thérèse prend possession des lieux du bout des doigts. Sa main glisse contre les murs, elle longe les couloirs, contourne chaque meuble, caresse ses formes. À grands coups de serpillière, d'éponge, de chiffon, elle décrasse, frotte et nettoie. À genoux, elle repère d'un geste parfois hésitant mais toujours juste le seau rempli d'eau. Elle lave le sol. Dans la buanderie, la lessive bouillonne de petites bulles blanches qui enveloppent ses mains d'un gant léger. Elle pend le linge essoré, à bout de bras, sur une corde tendue. Le soir, elle quitte une maison propre et ordonnée. À part les toiles d'araignées suspendues au plafond, ou les taches sur le linge qu'elle n'avait pu repérer, et pour cette raison, elle connaîtra de multiples employeurs qui finiront tous par la ramener au foyer des pupilles de la nation en déclarant « Cette petite, elle voit pas ?» Après une courte tentative dans une ferme où elle ne distinguait même pas les vaches, elle est envoyée chez la femme d'un boucher. Celle-ci lui confie le repassage avant de retourner aussi vite dans sa boutique. Thérèse, méticuleuse, étend le linge sur la table. D'une main experte, elle fait glisser le fer chaud et prend son temps. Elle plie le linge et repasse les nouveaux plis. Pour poser le fer, elle tend le bras, mais juste un peu trop loin. Sur le socle, il se déséquilibre, tombe et se brise. Ce soir-là, la directrice du foyer convoque Thérèse dans son bureau et lui annonce que la femme du boucher ne voulait plus de son aide. Pour une histoire de fer à repasser, semble-t-il. Elle vous croit aveugle. Elle donne à Thérèse un livre ouvert qu'elle lui demande de lire, pour vérifier ce qu'elle avait trop de fois entendu. Dans l'impossibilité de déchiffrer les mots, Thérèse retrouve l'espoir, car la directrice évoque la nécessité de soigner ses yeux. Les jours suivants, elle ne regagnait plus aucun lieu de travail. Ses pensées lui procuraient un plaisir tel qu'il barrait son visage d'un constant sourire. Elle se souvenait du désastre chez l'oculiste. Mais là, on passait à un autre registre, celui des soins. Elle se préparait à voir le monde les yeux grands ouverts, en imaginant ce que pouvait cacher le parfum d'une rose. Et cette lumineuse idée balayait la tristesse des années passées. Jusqu'à ce fameux matin, alors qu'elle vient d'avaler son petit déjeuner et se lever de table, l'un des responsables du foyer s'approche et lui dit que ça y est, on a une bonne nouvelle pour vous. Si l'on peut imaginer la joie d'un enfant qui déchire le papier d'un cadeau d'anniversaire, on peut sans difficulté comprendre le bonheur qu'éprouve Thérèse. Et le responsable poursuit, comme s'il ignorait des êtres leur fragilité. On a trouvé une maison de retraite où vous allez travailler. Elle avait 19 ans, désormais certaine que personne jamais ne s'était occupé d'elle.